que tu peux te présenter en quelques mots?
Alors, en quelques mots, disons que j'ai un parcours d'auteur un petit peu atypique, puisqu'au départ, je m'orientais plutôt vers les sciences. J'ai un cursus universitaire scientifique validé par une maîtrise de biochimie, donc je m'orientais tranquillement vers la recherche fondamentale. Et puis, cela dit, depuis que je suis tout petit, j'écris en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours mené de front à la fois des études scientifiques et une passion littéraire cachée pas très secrète, puisque finalement, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et donc, je dirais que j'ai vraiment saisi la balle au bon en 2004, lorsque j'étais salarié pour une entreprise médicale, pharmaceutique, qui s'est fait racheter par la concurrence. Et là, j'avais un coup à jouer. En fait, j'ai négocié mon départ, puisqu'il y avait un plan de licenciement à l'époque. Et donc, j'avais à peu près 2 ans devant moi pour savoir où je voulais aller. J'avais un projet de roman depuis quelques mois en tête. Et j'ai vu là l'opportunité de le mener à terme, en fait. C'est-à-dire que pendant les 2 ans que j'avais devant moi, j'ai consacré la première année à écrire le roman et la seconde à me réorienter professionnellement pour être secrétaire de rédaction et journaliste et correcteur. Dans l'édition, dans la presse, voilà. Donc pendant la première année, j'ai écrit Ma place au paradis, qui est mon premier roman, qui a été publié chez Robert Laffont. Et puis, donc ça, c'était en 2005. Et au cours de l'année 2006, j'ai fait ma reconversion professionnelle. Et depuis 2007, je travaille maintenant. Alors là, je suis chez un éditeur médical, je suis un petit peu revenu à mes premières amours. Mais au préalable, j'ai fait des piges pour Le Figaro, le groupe Figaro entier, pour Ushuaïa Magazine, j'ai fait de la correction et du rewriting pour beaucoup de maisons d'édition. Et aujourd'hui, je vis entre ma plume et mon travail de salarié chez cet éditeur médical.
Voilà. D'accord. Et donc tu dis que tu as eu envie d'écrire quand tu étais petit. Et qu'est-ce qui t'a donné ? Il y a quelque chose en particulier qui t'a donné envie d'écrire ?
Non, je regardais beaucoup. D'abord, je lisais beaucoup. Depuis que je suis vraiment gamin, depuis que je sais lire, je lis énormément. Par ailleurs, je regardais aussi beaucoup la télévision et toutes les séries télé, tous les films. Je suis un cinéphile aussi compulsif. Et donc, raconter des histoires m'a toujours intéressé en fait depuis tout petit. Raconter des histoires aux gens, des aventures qui les faisaient partir, voyager. Et je me suis dit, ce que font ces gens-là, ces gens que je lisais, que je regardais à la télé, moi, j'aimerais le faire. Voilà. Et je m'y suis mis comme ça, je sais pas, je devais avoir le premier petit récit que j'ai écrit, je devais avoir 10 ans, et puis depuis ça m'a jamais quitté. Quoi.
D'accord, et il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré, un film, quelque chose qui t'a...
Tous les films en fait, hein. Beaucoup de livres, beaucoup de films, mais mes lectures enfantines, je dirais, à l'époque, j'ai commencé... avec des auteurs comme André Dautel, comme Robert Sabatier, Cesse Bron, Shakespeare. Très très tôt, je me suis mis au théâtre en fait, à la lecture de pièces comme ça. J'adorais Shakespeare, j'étais en 6e, j'avais 10-11 ans, j'ai dévoré Shakespeare, Molière évidemment après. Mais non, il n'y a pas un livre qui m'ait fait... Barjavel, évidemment, quand j'étais jeune aussi, j'ai adoré La nuit des temps, enfin, Ravage, tout ça.
C'est des gros classiques.
Des gros classiques, alors que je ne le suis pas du tout, ni dans mon écriture, ni dans mes thèmes, ni... Ouais, c'est vrai que mes influences aujourd'hui, je dirais... Alors, c'est plus du côté des anglo-saxons. Je trouve qu'en France, on est assez... justement, on n'a pas réussi à se sortir soit des grands classiques, soit du nouveau roman que j'aime pas du tout, qui à mon sens a détruit la littérature française à partir des années 60, et je trouve qu'on a du mal à s'y retrouver alors qu'on a inventé le roman. Je veux dire que quand on prend les auteurs anglo-saxons qui marchent bien maintenant, tous ces gens-là se réclament de Flaubert, de Balzac, de Victor Hugo, et nous on a un peu perdu ce savoir-faire là, et je trouve ça dommage. Alors c'est vrai que mes influences maintenant c'est plutôt des anglo-saxons. Surtout les Américains d'ailleurs, j'adore des gens comme Bret Easton Ellis, comme Chuck Palahniuk, comme Jay McInerney. Voilà, donc en France, Philippe Dian m'a plu pendant assez longtemps. Et puis du jour où il s'est assagi pour rentrer chez Gallimard et être dans des courses au prix littéraire, il m'a beaucoup moins intéressé. Mais j'aime bien les Américains parce qu'ils ne s'interdisent rien en fait. Et c'est eux qui apportent vraiment de la nouveauté et de la modernité. Au sujet qu'ils traitent, à la manière dont ils les traitent. On retrouve ça aussi bien dans leurs romans que dans leurs films, que dans leurs séries télévisées. je pense qu'au niveau de la créativité, aujourd'hui, c'est vraiment eux les plus forts, alors qu'ils disent qu'ils nous ont tout piqué, donc c'est assez marrant. Et en gros, en France, que ce soit au cinéma ou dans les livres ou à la télé, on raconte jamais que des problèmes très très égocentrés de gens qui n'ont pas de soucis mais qui s'en créent parce que ça fait bien et qui racontent trop rien en fait. Et ça m'intéresse pas.
Voilà. D'accord. Et du coup, vu que t'as justement une écriture qui n'est pas très formatée par rapport à ce qui se passe en France, t'as du mal à trouver des éditeurs ou, enfin, je sais que t'as choisi l'autopublication.
Tout à fait.
Alors, pour certains de tes livres, parce que...
Exactement, j'ai un mal de chien à trouver des éditeurs, justement, parce que ils ont un bilan comptable à rendre à la fin de l'année. C'est avant tout des comptables. Tous ceux que j'ai vus depuis des années, j'en ai vu certains, c'était vraiment des bébés sortis de l'école qui me parlaient rentabilité avant de me parler littérature ou style ou écriture et qui ne connaissaient aucun des auteurs que je leur citais. Et c'est vrai que beaucoup d'éditeurs à qui j'ai eu affaire ont peur de m'éditer parce que comme c'est pas formaté ce que j'écris, comme c'est pas consensuel, comme c'est pas politiquement correct, comme je vais très très loin, mais volontairement, ils pensent que ça plaira pas au plus grand nombre et donc ils veulent pas prendre le risque de m'éditer. Je pense qu'ils ont tort parce que on voit bien qu'ils passent leur temps en fait à racheter souvent très cher des droits étrangers pour des livres qui ont fait un tabac aux États-Unis ou en Angleterre et qu'ils rachètent en France plutôt que de miser sur des auteurs français qui savent écrire comme ces Américains qu'ils rachètent mais sur lesquels eux ne veulent pas prendre le risque de miser. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi d'être édité en France, en littérature adulte en tout cas, et que j'ai recouru à l'autopublication il y a un petit peu plus d'un an maintenant, en février-mars 2012, avec un premier roman qui s'appelle Écran Total et qui a eu un succès immédiat. Alors j'ai eu la chance d'arriver parmi les premiers auteurs qui étaient autopubliés sur Amazon. Donc voilà, j'ai eu au moins cette chance-là d'arriver parmi les premiers. La concurrence était vraiment pas rude et j'ai fait un succès assez vite. Ce succès-là m'a apporté des articles dans la presse. Du coup, j'ai auto-publié un deuxième livre qui s'appelle Les corps terrestres, qui est celui par lequel je crois tu m'as connu en fait,
oui.
Et qui allait plus loin, qui est encore plus trash que le premier, qu'Écran Total, qui a failli être pris chez deux grands éditeurs, dont je tairai le nom par décence pour eux. Chez le dernier grand éditeur, l'éditrice qui voulait me prendre était furieuse après son comité de lecture. Parce que ça passait par un comité de lecture et elle a défendu le livre bec et ongle, elle y croyait dur comme fer et le PDG a mis son veto, voilà, parce que c'est trop sexuel, trop trash, trop, et il pensait que ça pouvait risquer son... il pensait que ça risquait de choquer son lectorat, donc il a mis son veto et le livre n'a pas été pris. Il a eu lui aussi un gros succès en autopublication sur Amazon.
D'accord, donc finalement l'autopublication, c'est...
Là je dirais que du coup ça m'a permis vraiment de publier en tout cas ces deux livres qui effrayaient tant les éditeurs. Et puis bizarrement, paradoxalement, c'est l'autopublication qui m'a ramené à l'édition traditionnelle, puisque suite au succès d'Écran Total, j'ai été approché à une soirée littéraire par un éditeur numérique, exclusivement numérique, qui s'appelle La Bourdonnais. C'est les éditions La Bourdonnais, et qui m'a dit « Écoute, ça me plaît bien ce que tu fais, j'ai vu que tu as beaucoup de succès par toi-même, que tu crois d'abord au livre numérique, à ce support de lecture, est-ce que tu serais partant pour faire un projet avec moi ?» Donc je lui dis non, puisque le contraire m'aurait étonné. Je lui ai dit non d'emblée, parce que j'estimais que j'avais plus besoin d'aucun éditeur, que je me débrouillais tout seul et tout. Et puis, en y réfléchissant bien, je me suis dit que ce serait peut-être pas idiot de passer par un éditeur pour un projet que j'avais, qui était un projet de série littéraire. Alors une vraie série littéraire, hein, c'est-à-dire calquée sur les séries télévisées que les Américains produisent actuellement, mais que les Français comme Eugène Sue et Ponton du Terrail ont inventé. À l'époque, ils écrivaient des petites séries comme ça dans des revues papier, et toutes les semaines, le lecteur avait un épisode nouveau. Et donc je m'étais dit, ce serait pas mal de relancer ça, reprendre un peu cette veine classique et historique de la série littéraire, du feuilleton littéraire, et de l'adapter aux thématiques d'aujourd'hui, avec des personnages d'aujourd'hui, des intrigues d'aujourd'hui. Et donc j'ai fait une sorte de melting pot entre toutes les séries télé que j'adore, True Blood, Les Sopranos, Weeds, Six Feet Under, Shameless, etc. Et avec ce côté un petit peu feuilletonnant, des écrivains classiques comme Eugène Sue, Souvestre et Alain avec Fantomas, Balzac. Et donc ça donnait Les Costello, voilà, qui est une série à parution mensuelle, qui est publiée pour l'instant uniquement en numérique chez La Bourdonnais, avec un principe de base, c'est que chaque épisode est calibré pour un temps de lecture de 20 minutes, et chaque épisode paraît le 15 du mois. Donc on donne un vrai rendez-vous au lecteur à date fixe. C'est un feuilleton, c'est-à-dire que si vous avez loupé l'épisode 1, vous ne pouvez pas suivre l'épisode 2 et ainsi de suite. En gros, chaque saison comprendrait une douzaine d'épisodes chacune. Donc ça fait une vingtaine de pages par épisode. On va arriver à la fin de la saison à 200, 220 pages, 240 pages. Que là, on réunira d'une part en coffret numérique, d'autre part en livre broché. Voilà. Et donc ça s'appelle Les Costello, une série mordante, puisque ça met en scène une série de vampires, une famille de vampires, un peu loser en fait, hein. Ils sont aux antipodes des vampires tels qu'on les connaît maintenant. C'est vraiment des gros losers. On ne sait pas pourquoi ils sont devenus losers, parce qu'en principe, les vampires c'est plutôt très très classe, ça vit dans des châteaux, c'est beau, c'est grand, c'est riche. Eux c'est vraiment des grands ratés, ils sont pauvres, ils n'ont pas un radis, ils sont obligés de bricoler pour essayer de vivre, ils arnaquent un peu les gens pour se faire 3 sous. Et on ne sait pas pourquoi ils en sont rendus à ça. Et ils essaient de s'intégrer à notre société, en fait. Et il va leur arriver évidemment des tas de trucs. Et en vérité, c'est un peu prétexte à parler des tentatives d'intégration d'une minorité dans une société qui n'est pas la sienne et dans laquelle c'est quand même super dur de s'intégrer quand on est différent. Voilà. Donc ça parle de la vie, ça parle des hommes, des femmes, de l'amour, de tout, de tous ces thèmes universels. Mais c'est très très décalé. J'espère assez drôle, et ça reprend un peu la philosophie des pulp. Les pulp magazines, c'était ces magazines américains du début du XXe siècle, qui étaient produits en grande quantité, qui étaient très très kitsch en fait, et qui n'hésitaient jamais à aller super loin dans l'exotisme, l'aventure, l'action, l'amour, le romantisme, le sexe. Voilà, donc je reprends tous ces gros clichés-là, toutes ces ficelles-là, exprès. Je m'en amuse, et j'espère que j'amuse les lecteurs avec moi.
J'ai commencé, j'ai lu le deuxième épisode, là, ça y est. Donc voilà, mais du coup, comment tu procèdes pour. Tu sais déjà où est-ce que tu vas aller, j'imagine un peu, ou tu étais vraiment.
À peine. Honnêtement, pour cette série-là, je sais pas si je le ferai pour la deuxième saison, parce que c'est super, super dur. Pour cette saison-là, en tout cas pour la saison 1, je m'étais dit, voilà, tu vas en faire le moins possible à l'avance. C'est pas du tout dans mes habitudes de travail, hein. D'habitude, tous mes livres sont super scénarisés, vraiment conçus en amont pour que quand j'entame la phase d'écriture, je n'ai plus qu'à écrire et que ça déroule, et que je m'amuse à l'intérieur du cadre très très rigide que je me suis défini. Vraiment donc un travail à l'anglo-saxonne, hein. C'est-à-dire que avant d'écrire un roman, j'ai le début, le milieu, la fin, j'ai tous les personnages, j'ai toutes mes scènes, toutes mes séquences, tout. Là, pour Les Costello, j'avais un fil rouge. Et je m'étais dit, ben, puisque c'est un petit clin d'œil aux grands classiques du XXe siècle et du XIXe, je m'étais dit que j'allais travailler dans les conditions de travail dans lesquelles eux se plaçaient. C'est-à-dire que souvent, ils écrivaient en temps réel et il fallait qu'ils pondent un épisode d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Et là, moi, je me suis dit, à partir d'un fil conducteur très très mince, que j'allais faire ça. Donc en fait, j'ai démarré le premier épisode, je ne savais pas trop où j'allais. Je connais la finalité de la saison 1, mais j'ai rien d'autre. J'ai pas encore tous les personnages. Alors j'ai tous les personnages de la famille, c'est-à-dire que tous les Costello sont là. Mais les autres, je les ai pas encore tous complètement en tête. J'ai pas non plus toutes les intrigues, j'ai pas non plus toutes les scènes, j'ai pas non plus toutes les séquences. Je sais quand même où je vais, si tu veux, donc je pars pas de rien. Mais d'un mois sur l'autre, j'écris vraiment en temps réel. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai pas un épisode d'avance. Là, à l'heure où je te parle, en fait, on devait se voir cet après-midi à 4h et j'ai repoussé à 18h parce que je m'étais dit qu'il fallait que j'écrive le plus possible l'épisode 3 aujourd'hui. Et j'en ai fait à peu près la moitié. Voilà, donc tu vois,
C'est déjà pas mal.
Ouais, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais j'ai pas d'avance, quoi.
D'accord.
Donc j'y vais un petit peu.
C'est pas un peu stressant, du coup, d'avoir une date.
Si, c'est hyper stressant. Et en même temps, ça m'oblige à être présent au rendez-vous parce que moi, je me suis engagé en fait auprès des lecteurs à leur fournir un épisode le 15 du mois. Mon éditeur me fait confiance à tel point qu'il m'a demandé de créer une collection en fait et de la diriger. Une collection donc, que j'ai appelée Pulp. Tout bêtement, et dont Les Costello est le titre phare. Donc je me suis dit, voilà, l'éditeur me fait confiance, les lecteurs, j'espère, m'attendent le 15 de chaque mois. Donc bah voilà, il faut que j'y aille. Il faut que je me creuse les méninges et que presque sans filet en temps réel, je ponde un épisode de... Alors c'est entre 4000 et 5000 mots. C'est pas énorme, mais enfin ça fait quand même une vingtaine de pages, tu vois, imprimées. Donc pour l'instant, l'éditeur me dit, écoute, chapeau, je t'avouerai que de toute mon écurie d'auteur, t'es le seul qui fasse ça. T'es le seul assez cinglé pour tenir ce rythme-là et pour peut-être embarquer dans un truc pareil. Mais je sais pas si je le ferai pour la saison 2 parce que c'est quand même parfois super dur et un peu stressant.
Okay.
Mais je trouve que de la contrainte naissent beaucoup de choses en fait. Et souvent quand t'es un peu acculé, quand t'es un petit peu au pied du mur, tu sors des trucs fantastiques que t'avais en toi et auxquels tu pensais pas. Et ça apporte aussi un peu une spontanéité à l'intrigue. Ça me permet de surfer sur l'actualité. Là dans l'épisode 2, je me suis servi du mariage pour tous qui venait d'être voté à l'Assemblée nationale, je l'ai injecté dans l'épisode. Ça permet de faire quelque chose aussi qui parle aux gens en temps réel, qui est presque organique, tu vois. Et ça c'est un truc, ça c'est un support que le numérique permet, et que ce format de lecture là de la série feuilletonnante comme ça permet, et c'est un grand plaisir d'auteur. Maintenant, le rêve pour moi, ce serait une adaptation télé, tu vois, de cette série. Alors là, ce serait merveilleux. Quoi.
Je pense que c'est possible. Enfin, le sujet fait que ça.
Ouais, sauf que même en France, ils sont assez frileux aussi là-dessus. Et tu vois, même une chaîne comme Canal, qui fait des choses un peu, parfois, qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire, mais pas trop quand même. Je sais pas. Voilà. Bon, pour l'instant, j'attends. Wait and see. Et puis, je croise les doigts et voilà.
Ok. Et du coup, tu me dis bon, que normalement tout est très structuré, mais alors où, quand et comment écris-tu ?
Alors, où ? Donc chez moi, dans mon bureau. Quand ? Alors idéalement, ce que je préfère, c'est écrire très tôt le matin. Je dors assez peu en fait, je me couche tard, je me lève tôt, et je suis rarement fatigué, parce que c'est vraiment mon rythme de vie. Donc j'aime bien imaginer des choses en pleine journée ou le soir, et écrire très tôt le matin, parce que c'est là que je suis le plus productif et le plus concentré en fait. Alors ça c'est quand je suis en phase d'écriture. Sinon quand je suis en phase de préparation, quand je suis en phase d'écriture scénaristique, là c'est vraiment, je peux écrire l'après-midi, le soir, peu importe, tant que je n'écris pas l'histoire à proprement parler, j'ai pas de rythme ni d'horaire vraiment défini. Donc j'écris des semaines à l'avance mon scénario, j'imagine des choses, je fais beaucoup de recherches sur le net, dans les biblis, dans les journaux. Là j'ai dû me renseigner à mort sur les vampires, sur lesquels je ne connaissais absolument rien. En même temps j'arrête, puisque je peux lire au lecteur, les vampires n'existent pas. Donc si jamais les lecteurs voient dans les Costello un truc sur les vampires sur lequel ils disent non, c'est pas possible, un vampire ne peut pas vivre à la lumière du jour, si les Costello peuvent, puisque de toute façon les vampires n'existent pas, et les Costello sont mes vampires à moi, donc ils peuvent faire ce que je veux qu'ils fassent. Mais en tout cas je me renseigne quand même pour savoir d'où je pars sur les vampires et quels sont leurs prérequis. Je me renseigne aussi pour cette série beaucoup sur la mafia russe, puisque la saison 1 et probablement la saison 2 porteront sur la mafia russe, puisque là c'est un scoop que je livre, les Costello auront de gros soucis avec la mafia russe dans cette saison 1. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Et quand je suis en phase de travail comme ça préparatoire, j'ai vraiment pas d'horaire, hein. Je peux faire ça quand je veux, où je veux, en vacances, chez moi, chez des amis, n'importe où, là c'est vraiment tout terrain. Alors en revanche, quand je suis en phase d'écriture, c'est-à-dire qu'une fois que mon scénario est validé, que tout est en place, ça prend des mois en général, hein. Je passe à peu près autant de temps à construire l'histoire qu'à l'écrire, parfois même plus longtemps. Là, une fois que je suis en phase d'écriture pure, j'écris le matin essentiellement. Et ce que j'aime bien faire, c'est ensuite, à partir du début d'après-midi ou du milieu d'après-midi, relire ce que j'ai écrit, corriger tout de suite, si bien que je produis un rythme de 2 à 3 pages par jour, c'est pas beaucoup, hein. En revanche, c'est 2 à 3 pages que je peux vraiment montrer à un éditeur ou à un lecteur. Voilà, je préfère travailler comme ça. Je sais que beaucoup de copains écrivains font un premier jet d'un coup, et puis quand ils ont leurs 300 pages, ils les reprennent, ils retriturent, ils machinent. Moi, en fait, il y a très très peu de retravail après, puisque tout est fait en amont, en fait, voilà. Tout est fait en amont ou en temps réel. J'ai travaillé de cette manière-là avec les éditions Don Quichotte. par exemple, qui m'ont commandé le premier tome d'une saga pour ados et jeunes adultes, dont le premier tome paraîtra donc en octobre. J'ai travaillé comme ça, c'est-à-dire que j'ai d'abord élaboré un scénario sur plusieurs mois que j'ai fait lire à l'éditrice. Donc on a fait un jeu de ping-pong comme ça avec l'éditrice pour voir ce qui allait pas selon elle, évidemment. Hein, ça c'est parce que selon moi tout était bien, sinon je ne l'aurais pas montré. Voilà, ça c'est un peu le souci aussi quand on bosse avec des éditeurs de l'édition traditionnelle, c'est que bon, ben, ils vous disent un petit peu ce qu'ils attendent de vous et ils mettent un peu leur nez dans votre travail. Bon, après on accepte ou pas. Là, je l'ai accepté parce que le projet me plaisait bien et puis parce que l'éditrice me plaît bien, je pense qu'elle fait bien son boulot et il n'y en a pas tant que ça. Donc je lui ai montré un scénario sur lequel on a retravaillé pendant plusieurs mois. Et après, je me suis mis à écrire et j'écrivais exactement de la même manière, tôt le matin. Et j'écrivais à peu près 2 à 3 pages montrables par jour. Et sur, alors là, c'est un gros pavé de 600 000 signes, ce qui fait que ça ne m'a pas pris beaucoup de temps finalement. Je me suis mis à l'écrire en juin, il était fini le 15 décembre, puisque c'était le contrat. Il fallait que je remette le manuscrit le 15 décembre. Donc ça m'a pris à peu près 6 mois. Bon, pour faire 600 pages, je me dis que c'est pas plus long que ça, quoi. J'ai mis à peu près autant de temps à, faire, à écrire le scénario et à le construire.
Et il sort quand ?
Et il sort en octobre.
En octobre. Voilà. D'accord. Et du coup, quand tu écris musique ou silence ?
Alors, quand je suis en phase d'écriture pure, c'est le silence. En revanche, quand je conçois, quand je suis dans la recherche de mes personnages, des scènes, des séquences, j'écoute, je prépare ma tracklist avant, en fait. J'ai toute ma bande-son en tête. Et je me dis, pour cette scène-là, j'irai bien cette chanson. Et je me retiens énormément de ne pas mettre à chaque scène une chanson, sinon je le ferais. Parce que j'ai une vision très cinématographique de mes livres, en fait, et de la littérature. Mais j'évite parce que j'ai peur qu'on me dise « Écoute, décide-toi, fais un livre ou fais un film. » Mais les deux, ça peut pas le faire. Donc c'est vrai que quand je construis l'histoire et les personnages, j'écoute là pour le coup beaucoup de chansons et j'en choisis. Je fais vraiment ma tracklist et pour chaque personnage, quoi. Et chaque situation et chaque scène.
D'accord, donc c'est vraiment une volonté de mettre de la musique.
Ouais. Et le plus souvent possible, quand je peux, des références cinématographiques.
D'accord, parce c'est ce qu'on voit.
Je pense que ça transparaît dans mes livres, y compris dans les Costello.
Oui, j'ai vu qu'il y avait déjà. D'accord, et du coup.
Mais parce qu'il faut dire aussi, je ne sais pas si je l'ai dit faut dire que j'écris des chansons aussi. Donc de toute façon, j'ai une culture musicale très très profonde, très très marquée, à laquelle je ne veux pas renoncer. Donc je continue d'écrire des chansons et je pense que je continuerai toute ma vie aussi. Donc ça fait partie vraiment de mon univers. Je n'arrive pas à dissocier ces arts-là, qui sont pour moi extrêmement complémentaires.
D'accord. Et la musique que tu choisis, c'est à la fois des références de musique qui sont dans les films, mais il y a aussi pas mal de pop.
C'est ça, j'adore ça. Ouais, vraiment, je crois que je suis vraiment plus pop que rock. Quoique, alors bizarrement, plus j'ai vieilli, plus je suis rock. C'est bizarre, hein. J'ai une vie, c'est un peu comme Benjamin Button. C'est-à-dire que plus le temps avance, et plus je rajeunis dans ma tête, en fait. La pop, c'est plutôt un truc cool, enfin moins péchu que le rock et vers lequel tu penses que tu vas t'orienter avec l'âge. Moi, je me rends compte que plus je vieillis, plus je suis subversif, transgressif, rock'n'roll, voire punk parfois. Mais en gros, ça tourne toujours autour du pop et de la pop et du rock. Ouais.
D'accord. Et pour toi, un chanteur ou un groupe incontournable, ça serait
U2, qui est à peu près, je crois, dans tous mes livres. En étranger, c'est U2. Alors, je connais pas forcément tous les noms des groupes, ça c'est affreux. Mais évidemment, Keane, à l'époque où j'ai écrit Les Corps Terrestres, Keane m'a accompagné, Hopes and Fears, le premier album de Keane, m'a accompagné tout le long. En France, il y a Biolay et Bachung et Gainsbourg, qui sont vraiment pour moi les trois incontournables. Et puis si, quand même, tous les groupes anglo-saxons qui sont super forts, quoi, les Cranberries, les Corrs, dans les nouveaux, les Strokes, j'oublie les noms, mais toute cette pop anglaise que je trouve de meilleure qualité que la pop américaine, pour le coup. Je trouve les Américains plus forts en rock et les Anglais plus forts en pop. Et comme je préfère encore quand même plutôt la pop, je m'oriente plutôt vers les groupes anglais, ou irlandais, ou écossais, ou... J'aime Travis, j'aime Coldplay, enfin j'aimais Coldplay. Voilà.
Tu aimais.
Ouais, je trouve que depuis 2-3 albums, c'est bof, 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 quoi. Je trouve que les deux premiers albums ont été somptueux et que depuis, c'est quand même vraiment c'est la grosse soupe variette. Je sais pas ce qu'ils font, mais au secours, quoi. J'aime plus.
D'accord. Si toi, t'étais une chanson, tu serais quelle chanson?
Wow. Alors là, si c'était une chanson, With or Without You, quand même, je pense, de U2.
Ouais.
Qui est vraiment ma chanson emblématique. Ouais. Mais ça pourrait être aussi une chanson de Bachoum, une chanson de Gainsbourg. Alors, tu vois, c'est vachement emmerdant d'en choisir qu'une. Mais voilà, comme tu m'as demandé qu'une, ce serait With or Without You, voilà, okay. De U2.
Et la musique, tu l'écoutes en physique, en numérique
ou... J'écoute beaucoup la radio le matin dans ma voiture quand je vais chez mon employeur. J'écoute beaucoup UFM. Sinon, j'écoute. Je suis un vieux monsieur en fait. Alors, j'ai une chaîne IFI sur laquelle je passe tous mes CD en fait. J'ai même. Il faut que je la restaure une platine vinyle. Qu'il faut que je. Ah ouais, ça, je crois que c'est top. Sinon, non, j'écoute pas tellement la musique en numérique. Non, c'est vraiment soit CD, soit de temps en temps. Quand je suis dans mon bureau et que j'ai besoin de prendre un titre, je vais sur Deezer ou sur... Mais ça reste plus rare.
D'accord. Et tu... Pour lire,
oui.
Plutôt physique ou plutôt numérique?
Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais plutôt livre papier. Et puis, j'ai découvert le Kindle. Enfin, d'une part, la lecture numérique à l'époque où je me suis auto-publié sur Amazon, pardon. J'étais pas tellement favorable en fait, c'est-à-dire que j'étais un peu gonflé, c'est-à-dire que j'écrivais des livres numériques pour des lecteurs donc, qui lisaient sur une tablette ou sur liseuse, mais en même temps je dénigrais un peu le produit, donc je me suis trouvé pas très logique avec moi-même, puis je me suis dit que c'était vraiment con, parce que ce qui est important dans un texte, bah, c'est le texte, c'est pas ce sur quoi tu lis, c'est-à-dire qu'à l'époque de Moïse on avait les tablettes d'argile, après au Moyen-Âge on a eu les parchemins, après on a eu le livre papier, après le livre de poche a été voué aux flammes de l'enfer aussi quand il est sorti, et là je trouve qu'on fait un procès mais d'arrière-garde, mais ça encore c'est vraiment franco-français quoi, je trouve ça mais stupide et contre-productif ce procès qu'on fait aux liseuses et à la lecture numérique. D'abord c'est un moyen extrêmement démocratique d'amener la lecture à des gens qui n'y seraient pas forcément venus spontanément. Là, c'est quand même magique, c'est la lecture qui vient à eux. Merde, je trouve que quand on est éditeur ou auteur, on peut pas bouder ce plaisir. C'est impossible, on se tire une balle dans le pied. Et surtout, on passe pour un vieux con auprès des gens qui comprennent pas cette levée de bouclier, quoi. Et moi, ça me paraît antinomique complètement avec la fonction d'éditeur. Et d'auteur, je veux dire, je vois sur Facebook, mais je suis horrifié, des confrères, des auteurs, qui lance des posts mais débiles hein, sur les tablettes et sur les liseuses, et je me dis que j'ai rien à voir avec ces gens-là, quoi. Rien.
Tu penses pas que c'est les librairies qui font un peu...
Je sais pas, il y a un vieux conservatisme en France qui fait que de toute façon, tout ce qui est nouveau, on n'en veut pas, alors que longtemps, quand même, on a été le pays des lumières. Là, on est juste le pays des lumières éteintes, en fait, hein. C'est un peu dommage. Et non, je pense que c'est pas que les libraires. Il y a un gros lobby, effectivement, des éditeurs et des libraires. En même temps, si les libraires... Moi, je vais pas me faire copain avec eux, mais tant pis, j'assume. Mais si les libraires s'étaient un peu sortis les doigts du cul quand on leur a dit que le numérique arrivait comme il est arrivé en musique, c'est pas toi que j'ai de l'apprendre, mais les majors se sont fait bananer au départ, elles ont pas voulu voir que la bête était là. Elles ont vachement bien surfé la vague et je trouve qu'elles ont bien fait le truc. En littérature, ça fait quand même des années qu'on dit aux libraires que ça va venir, ça fait des années qu'on dit aux éditeurs que ça va venir, ils n'ont rien voulu faire. Il n'y a quand même rien de plus facile quand on est libraire de quartier que d'installer dans sa putain de boutique une borne de téléchargement, comme il y a chez Virgin, comme il y a la Fnac pour la musique, avec un téléchargement de bouquins. Mais c'est. Enfin, je sais pas, ça doit coûter que dalle en investissement. Une borne, je sais pas combien ça coûte, mais les libraires qui me disent « Ah, mais mon Dieu, Amazon nous a tués », non, c'est leur incompétence à eux qui les a tués. C'est leur inertie, c'est leur conservatisme, c'est leur vieillesse intellectuelle, leur paresse intellectuelle, leur élitisme, parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez condescendant dans cette démarche qui consiste à dire « Ah oui, mais le livre c'est que sur papier, ou sinon, non ». Ouais, sauf qu'un livre papier c'est 20 euros, quoi. 20 euros, je sais pas, je me dis qu'une famille qui tire un peu le diable par la queue, qui a 1, 2, 3 enfants, avec 20 euros, elle peut manger quelques temps. Et je me dis que moi, si je crève la dalle, les 20 euros que j'ai, c'est pas dans un bouquin que je vais les mettre. C'est dans un sandwich, c'est dans n'importe quoi. Et donc, quand on voit qu'on peut faire des livres numériques pour 99 centimes ou 3 euros, ou... eh ben merde, il faut pas passer à côté de ça, quoi. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de vendre des livres à 20 euros. ceux qui peuvent et qui veulent agrémenter leur bibliothèque peuvent acheter un livre à 20 euros, et puis ceux qui n'ont pas ces moyens-là et qui préfèrent acheter le même livre à 3 euros, qu'on leur laisse la possibilité de le faire.
Je suis beaucoup ce discours. je suis très pro-numérique, donc voilà. Dans tes bouquins, le personnage masculin est écrivain, a une femme, un enfant, et aussi cherche à se réorienter pour être correcteur, etc. Donc, ce qui
me ressemble assez, tu vas dire.
Ça ressemble assez, et donc le personnage féminin, lui reproche souvent de s'inspirer de la réalité.
Oui, oui.
Donc, quelle est la part d'autobiographie dans tes livres?
Tout est inventé, évidemment, puisque ce sont des romans. Non, bah, évidemment, la part de vérité, c'est que on écrit sur des choses qu'on connaît très bien. Et même dans les Costello, qui sont des personnages très très éloignés de moi, parce que je suis pas vampire, je suis pas déménageur. Il y a des traits communs, évidemment, il y a des traits de caractère. Chacun des personnages me ressemble d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être plus dans les corps terrestres, si c'est le livre auquel tu fais allusion, mais effectivement, raconte l'histoire d'un mec qui se réoriente professionnellement et tout. Bon, là, voilà, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Dieu merci, le reste ne m'est pas arrivé. Mais je travaille toujours à partir d'un matériau existant que je travestis, que je malaxe, que pour reprendre la chanson de Bachung, que je malaxe, que pour le rendre hors norme. Donc je mens, j'embellis, j'enlaidis pour raconter une histoire en fait. Mais tout dans mes livres existe et n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai tout transformé, j'ai tout modifié, les personnages, je les ai tous rencontrés d'une manière ou d'une autre. Souvent, un personnage est un amalgame de 3-4 personnages que j'ai rencontrés. Ça peut être simplement des instants que je chope dans le métro, à une terrasse de café, dans la rue, un regard que je croise de quelqu'un, je lui dis « Tiens, il est comme ça, est-ce qu'il ne pourrait pas faire ci ?» Puis, voilà, après, je pars imaginer des tas de trucs, et tout ça, ça me resserre. Et souvent, les personnages sont des gens qui écrivent, parce que j'aime la création, et j'aime tout ce que ça véhicule de fantasmagorie. Aussi auprès des gens qui ne sont pas dans la création mais qui sont bien obligés de vivre avec des créateurs. Et je me dis, quelle incidence ça peut avoir sur ces gens-là et sur toi qui es créateur et en quoi ça peut influer dans ta vie réelle. Ou, voilà, donc ça c'était le thème aussi d'Écran Total. Donc j'aime bien mélanger un petit peu tout, mais ça ne reste jamais que de la fiction, même si les personnages masculins pour ces deux romans-là me ressemblent beaucoup. Dans les Costello, faut vraiment chercher la ressemblance, peut-être dans les goûts musicaux de certains, ou dans des traits de caractère, ou voilà. Dans Artus Bayard, qui va sortir en octobre, donc chez Don Quichotte, là c'est pareil, c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme, donc c'est plus moi malheureusement, voilà. Bon, le môme a 14 ans, 15 ans, moi j'en ai un tout petit peu plus, pas beaucoup, mais un tout petit peu plus. C'est un scoop, j'ai un polar qui va très certainement être pris chez un gros éditeur aussi, donc là je ne sais pas quand. Le personnage principal, il y a deux personnages principaux, il y a une flic et un vendeur en accessoires de salle de bain, donc là c'est pas moi, mais évidemment ces gens-là me ressemblent aussi beaucoup par certains traits de leur caractère. Voilà.
D'accord. Et du coup, donc là tu me dis que tu vas avoir un livre pour ados qui va sortir. T'as écrit des petites nouvelles avant aussi pour enfants.
C'est ça, j'ai écrit deux récits pour la jeunesse qui avaient été... Alors en fait, ce sont des adaptations, celles que j'ai mises en autopublication sur Amazon et sur les autres plateformes. C'est Léo et l'araignée et Léo et le monstre à son visage. C'est deux récits que j'ai écrits qui ont été lus et diffusés sur France Musique et qui ont été adaptés en musique par un compositeur qui est vraiment brillantissime, qui s'appelle Stéphane Bissière, et qui a fait des impros en temps réel sur ses lectures. Et donc ceux-là, je les ai adaptés ensuite pour les diffuser sur Amazon d'abord, et puis partout ailleurs après. Elles sont sur Apple et sur chapitre.com, et sur la Fnac et Kobo aussi, donc sur les principales plateformes.
D'accord. Et du coup, tu préfères écrire pour les enfants? Tu préfères écrire pour les adultes?
En fait, ce que j'aime vraiment, c'est écrire et créer des choses. Et vraiment, les deux m'éclatent autant. Et c'est pour ça que j'étais vraiment comme un gosse quand ce projet chez Don Quichotte a commencé à germer. J'ai toujours voulu écrire pour la jeunesse. Et je trouve que voilà, quand on arrive à toucher un jeune, quand on arrive à écrire des choses qui font écho en lui, ça peut qu'en faire un adulte meilleur que s'il n'avait pas lu, en tout cas. Je trouve que la lecture adoucit les mœurs aussi, comme la musique, et je trouve ça vraiment très très bien. Donc si je peux faire qu'un gosse de 14-15 ans, mais enfin en même temps, les grands pourront le lire aussi, Artus Bayard, c'est dit pour jeunesse et young adults, comme ils disent, mais je connais des adultes qui ont lu Harry Potter par exemple et qui ont adoré ça. Mais en tout cas, si je peux toucher ce lectorat-là, si je peux toucher des jeunes cœurs encore tendres, et pas trop corrompus, et leur montrer des trucs super, eh ben, je prends, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je suis encore, je suis un grand gosse, je suis un grand gosse en fait dans ma tête. Je m'éclate par exemple à faire les Costello, c'est vraiment un truc d'ado attardé quoi. C'est l'humour potage qui vole pas bien haut parfois, mais je trouve que quand même on arrive quand même à toucher à l'universel en faisant des trucs pareils. Et je trouve que tout ce qui va droit au cœur des gens, c'est bien, quel que soit l'âge. Et je pense que plus on s'adresse à des lecteurs quand ils sont jeunes, et mieux c'est, parce que ça peut leur ouvrir l'esprit, ça peut leur offrir des perspectives, ça peut les éclater, leur montrer des belles choses, ou des choses drôles, ou des choses un peu plus profondes, les amener à des choses un peu plus profondes, à des réflexions. Parce que dans Artus, en fait, qui est un livre d'aventure, il y a énormément, énormément de réflexions. C'est-à-dire que Artus, c'est un gosse qui a 14 ans, 15 ans, je crois, 14 ans, je ne sais plus, mais qui s'interroge beaucoup sur le monde tel qu'il est, sur les injustices, sur la mauvaise répartition des richesses dans le monde, sur les privilèges, sur... voilà, et dans le tome 2, ce sera autre chose. Et donc, si je peux amener les gamins à retrouver cet esprit un peu citoyen et civique qu'on a perdu parce que les politiques s'y sont employées depuis des années, à nous dégoûter de la politique pour faire ce qu'ils veulent du monde et nous en désintéresser, que je me dis que ce serait pas mal. Voilà.
Okay. Et du coup, tu me dis que tu as un polar qui arrive aussi, tu as d'autres projets Oui.
Oui, donc j'ai ce polar-là qui arrive, qui s'appelle pour l'instant Le Repentir, qui est quasiment pris chez un grand éditeur. Alors, pour quand, là, je ne sais pas, je dois encore retravailler 2-3 trucs, puisque ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. À partir du moment où tu te fais prendre par un éditeur, il aime ce que tu fais, mais quand même, il te demande de retravailler des trucs, tu vois. C'est bon, ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire. Donc je vais le refaire, j'ai pas beaucoup de retravail je crois, donc ça va être assez rapide, et je pense pouvoir montrer le manuscrit définitif au mois de juin. Après, ça laisse une possibilité pour Noël, ou sinon je pense pour la rentrée de janvier, mais là c'est plus moi qui suis maître de ça. Ensuite, un autre gros projet, alors là je croise les doigts, j'espère que ça se fera. En plus de mon activité d'auteur, j'ai une activité d'accompagnateur littéraire que j'ai créé il n'y a pas très très longtemps. Ça s'appelle très simplement Laurent Bettoni Accompagnement Littéraire, comme ça au moins les gens peuvent la trouver super simplement. Et j'ai accompagné une primo-auteure qui s'appelle Agnès Martin-Lugan dans l'écriture de son roman, de son premier roman, qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café, qu'elle a mis en autopublication le 28 décembre 2012, donc il n'y a pas très très longtemps, et qui a juste fait un carton. Mais un carton sur Amazon, The Carton. Voilà, c'est en gros, je crois que c'est la première, tant mieux pour elle, hein, c'est une question de timing, c'est la première réelle grosse success story d'autopublication en France, avec un roman de littérature générale. Donc elle a fait un carton à tel point que 3 semaines après sa publication, c'est-à-dire fin janvier, elle a été contactée par un éditeur de chez Michel Lafon, qui lui a proposé un contrat qu'on a épluché, elle et moi, puisque je l'ai vraiment accompagné de A à Z hein, dans cette aventure. C'est-à-dire que je ne me suis pas contenté de l'accompagner dans l'écriture de son livre, j'ai aussi fait la couverture de son livre, la quatrième de couve, l'argumentaire, etc. Et donc, je l'ai aidé à prendre des décisions sur ce contrat que Michel Lafon lui proposait, dans les pourcentages, etc., dans tout. Ça s'est fait. Le livre est chez Michel Lafon depuis, en version numérique depuis quelques temps maintenant, et la version papier sort le 6 juin. Il s'est vendu déjà dans 18 pays. Il a fait le buzz au Salon du Livre de Londres qui a eu lieu il n'y a pas très très longtemps. Et un producteur a mis l'option dessus. donc il semblerait qu'un film voit le jour d'ici quelques temps et que j'écrive le scénario avec Agnès Martin-Dugand, qui est l'auteur du livre. Donc ça, c'est un rêve d'enfant pour moi, puisque ça fait des années que je rêve d'écrire un scénario, j'en ai fait. J'ai travaillé pendant un an et demi comme scénariste pour une société de production française qui n'a rien fait. Voilà, elle ne nous a plus contactés du jour au lendemain et on ne sait pas où sont parties nos idées, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça, c'est vraiment un rêve. Ça, c'est vraiment un rêve. Donc ben voilà, j'espère que ça va se concrétiser dans les jours qui viennent et commencer l'écriture de ce scénario-là bientôt. Et ce sera une belle, belle, belle histoire romantique. Je suis une grosse fleur bleue, en fait, aussi. Je suis un peu midinette sur les bords. J'adore les trucs à la Bridget Jones ou... comme ça, coup de foudre à Notting Hill, ou je suis un peu voilà, autant j'écris des trucs hyper trash, autant je suis un gros romantique de base, fleur bleue et tout. Et donc là, on part sur une comédie romantique à mort, et j'espère que le casting sera une tuerie et que ce sera un beau film avec des beaux acteurs, glamour à mort, et voilà. Et je m'éclaterai là-dedans, en tout cas. Ouais.
Bah, j'espère que ça le
fera. Un de mes films cultes, c'est Breakfast at Tiffany's, quoi,
ouais.
qui est juste sublime. Voilà, donc si on pouvait faire quelque chose qui s'approche de ça, ce serait magique pour moi, quand même.
Ok, et donc du coup, t'as plein de projets. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre ?
Bah voilà, je mène mes projets à terme. En fait, j'ai pas de temps libre.
Pas de temps libre.
Non, parce que dès que j'ai 5 minutes, c'est pour écrire ou composer, ou je compose au piano, en fait. Donc je me mets à mon piano ou à mon clavier, j'ai les deux. Donc soit je compose, soit j'écris des chansons, soit j'écris des livres. Soit j'écris des scénarios, soit je pense à ce que je vais écrire. Enfin voilà, c'est toute ma vie tourne autour de. Soit je vais au cinéma, je regarde beaucoup, beaucoup la télé aussi, beaucoup de séries. Il y a que ça qui m'éclate parce que les films, bof, à part les films anglo-saxons, je trouve que le cinéma français et la télé française, ouais, c'est pas trop ça, quoi. Mais voilà, je passe mon temps à lire, à regarder des films, à regarder des séries télé que je chope ou que je lis en streaming, là pour le coup, sur le net. Et à écrire, voilà, c'est vraiment... Et à travailler comme 8 heures par jour pour un éditeur, ça m'embête et j'aimerais bien faire autre chose, mais... Voilà, tant que j'ai pas un gros carton en librairie ou au cinéma, pour l'instant, il faut que je continue à travailler et à gagner ma vie comme ça.
Ok. Et pour finir, quelles sont les 5 chansons qui tournent du coup, sur ton lecteur CD ou que t'écoutes en ce moment
Alors, c'est plus des albums que des chansons.
Ouais.
Y a La Superbe, on en parlait tout à l'heure. Il y a La Superbe de Benjamin Biolay que j'écoute vraiment en boucle. Bachoum toujours, parce que ça c'est vraiment... pour moi c'est un summum, et là c'est l'album Osez Joséphine. U2 évidemment, tout le temps aussi. Alors là c'est tous. Tous. Keane, Hopes and Fears. Ça fait 4 ou 5 là ?
Ça fait 4.
Non, je crois que c'est tout. Ouais, je suis en train de réfléchir.
Et dans les nouveautés, il n'y a pas quelque chose
qui... Si, j'écoute aussi des groupes comme les Bewitched Hands, Skip the Use, les Strokes, Kings of Leon, des gros standards, Blur, Oasis, Nirvana, plein quoi. Je suis hyper déçu par le nouvel album de David Bowie, je pense que c'est l'album de trop, j'en aurais pleuré tellement c'est de la merde ce qu'il a sorti quoi.
C'est dur. Ah,
c'était un mec, ouais. C'est dur de lui, c'est dur de l'entendre faire ça, quoi.
Il est décevant. Mais...
Ouais, c'est vraiment dur, quoi. Et ça, je vais me faire foutre de moi, tant pis. Bien sûr, et j'écoute en boucle le double album de Burt Bacharach, voilà, où il y a tous ses standards.
D'accord.
Voilà, ça m'inspire pour mes scènes d'amour, mes trucs, et voilà. Ouais, bien sûr, Burt Bacharach, ouais.
Ok, merci.
Merci à toi, c'était sympa.